Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h39 sur BFM Business. Nos invités dans le club de la bourse, c'est aujourd'hui avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. À côté de vous, Jean-Louis Nakamura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion Global Equities de Vontobel AM. Je commence avec nos histoires d'emploi US, parce que c'était jeudi, parce que c'était férié vendredi. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Nicolas?
Alors, il faut retenir que les emplois non agricoles ont augmenté de 57 000 le mois dernier. Il faut surtout retenir que le nombre d'emplois créés aux États-Unis a été révisé à la baisse, notamment pour le mois d'avril. On est passé de 179 000 annoncés précédemment. On est passé à 148 000 à l'heure actuelle. Pour le mois de mai, on est passé de 172 000 à 129 000. C'est des chiffres qui laissent entendre, en tout cas, c'est ce que le marché semble acheter, que la Fed pourrait reporter une perspective de hausse de taux lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.
Wilfried Galland, sans aller jusqu'à faire des prévisions sur les hausses ou les baisses de taux, parce que ça peut changer à la minute, qu'est-ce que ça nous dit de la vigueur de l'économie américaine?
Alors, si on prend un tout petit peu de recul sur ces chiffres, si on fait une moyenne 6 mois, on est au plus haut depuis 2015 quand même. Donc c'est un bon chiffre sur ces éléments-là. 2025. Donc en fait on a eu en fin de trimestre de l'année dernière, on avait une baisse véritablement du marché de l'emploi, on avait un effritement. Là, on est reparti sur des chiffres qui sont, on va dire, des chiffres de stabilisation et des chiffres de stabilisation plutôt haussiers sur le marché de l'emploi si on prend effectivement une moyenne un peu plus longue. En revanche, ce qu'on voit quand même, c'est que on n'a pas de création massive et surtout, on n'a pas une augmentation des salaires. C'est ça qui était très important dans le chiffre de l'emploi. Voilà, les salaires aux États-Unis par rapport au prix ont plutôt tendance à s'effriter. Et donc le pouvoir d'achat américain a plutôt tendance à baisser. Et donc la consommation, parce qu'on a eu également les chiffres de consommation, la consommation a plutôt tendance à baisser dans l'activité. Donc ça, effectivement, ça plaide pas du tout en faveur d'un resserrement financier. Ça plaide en faveur d'une stabilisation économique, mais d'un pilier de la croissance qui repose de plus en plus sur les investissements, de moins en moins sur la consommation. Et dans ce cas-là, vous avez aucun intérêt effectivement à resserrer les conditions financières. Vous avez intérêt à attendre. En plus, ils veulent changer énormément de choses à la Fed. Je pense que rien de presse, quoi.
Jean-Louis Nakamura, quelle est votre analyse sur l'économie américaine?
Au-delà de ce qui vient d'être dit, je partage complètement le diagnostic. Je crois qu'il y a deux autres messages qui sont intéressants dans ces statistiques de l'emploi. C'est d'une part que ça confirme que depuis le Covid, le BLS, le Bureau des statistiques du marché du travail aux États-Unis, a beaucoup de mal avec la mesure au mois le mois des données. On a des révisions très larges et quasiment systématiques, parfois à la hausse, souvent à la baisse. La deuxième chose, c'est que Monsieur Arch, lors de son premier meeting, a surpris le marché, ou en tout cas à moitié surpris le marché, en voulant remettre en cause la forward guidance de la Fed à l'avenir, en disant qu'il allait beaucoup plus s'appuyer sur les données. Comment on s'appuie sur des données du marché du travail lorsqu'elles sont aussi peu fiables, au moins à court terme, même s'il y a des tendances de fond qui se dégagent?
Sur la fiabilité, pardon, est-ce qu'on paye encore les épisodes de shutdown aux États-Unis ou est-ce que c'est un problème plus global de capacité à mesurer les chiffres de l'emploi aux États-Unis?
Il y a de taux de réponse aussi. Il y a de moins en moins de taux de réponse, en fait.
Donc, en fait, parce qu'il y a un problème.
C'est-à-dire qu'en fait, les données de l'emploi, il n'y a pas Pôle emploi, c'est pas les mêmes systèmes. En fait, c'est véritablement des sondages, en fait, entreprises et ménages. Et vous avez de moins en moins de répondants aux États-Unis. On est passé en gros, sur tous les sondages économiques, on est passé d'un taux de réponse entre 80 et 85%, un taux de réponse d'à peine 60. Donc effectivement, la solidité statistique est de plus en plus faible.
Au-delà du taux de réponse qui est très faible, on a aussi un mouvement de retrait du marché du travail. Donc un double mouvement de retrait du marché du travail, de hausse de nombre de titulaires de multiples jobs.
Mais de retrait volontaire?
De retrait, on ne sait pas toujours s'ils sont volontaires. Donc les interprétations sont multiples. On est encore entre gain de productivité, remplacement, découragement, post-Covid. Il y a beaucoup d'interprétations qui s'entrechoquent aujourd'hui. Personne n'a la réponse absolue. Évidemment, en fonction du facteur qui sera le facteur prédominant et qu'on ne connaîtra probablement qu'à posteriori, on aura la réponse. C'est pour ça que finalement, s'appuyer sur des données au mois le mois, c'est quand même très compliqué. Moi, je pense qu'effectivement, la situation de l'économie américaine est telle que ça invite à la prudence monétaire, au minimum à un buy and hold, et on verra après l'été si l'anticipation du marché toujours persistant d'une hausse de taux pour cette année subsiste ou pas. Moi, je n'y crois pas trop.
Ça sert à rien de se faire peur tout de suite, quoi.
Ouais, non, exactement. Enfin, surtout que La Fed nous dit, je vais changer les indicateurs avec des indicateurs beaucoup plus de temps réel. Ouais. Hein, ils veulent même plus s'occuper...
Avec des inflations corps, enfin très, très précis.
Voilà, exactement, des inflations tendance. Hein, en disant, leur objectif, et je pense que c'est un objectif qui est très louable, c'est-à-dire il faut arrêter de s'appuyer sur des données retard, donc le chômage, l'emploi, l'inflation, ce qui était en fait le triptyque de la Fed, hein, chômage, emploi, inflation, mais ça nous dit ce que l'économie était dans les derniers mois. Lui nous dit, je dois faire comme les entreprises, c'est-à-dire m'appuyer de plus en plus sur des données temps réel qui me permettent de dire, je vais
vers où je vais. Attendez, il va aller sur Polymarket lui aussi? Non, parce que c'est ça le sujet derrière quand même.
Non, en fait, vous avez énormément de choses en fait aujourd'hui qui sont disponibles aux États-Unis, comme les données par exemple de sur les cartes de crédit, les données sur les consommations d'essence, les données sur les demandes de crédit temps réel qui sont demandées en termes de crédit hypothécaire. Donc il y a énormément de choses en fait qui sont disponibles et qui sont pas en fait utilisées en termes de modèle. Donc on va voir comment est-ce qu'il va s'organiser.
Parce que Jean-Louis Nakamura, quand on dit je m'appuie sur la data, enfin c'est un choix, on hiérarchise ce qu'on regarde, on choisit quoi.
Le double mandat de la Fed, il est clair. Après, effectivement, il peut s'implémenter de manière extrêmement diverse. Il y a aujourd'hui un autre phénomène hein, qui découle directement de ce dont on vient de discuter, c'est cette K-shape économie aux États-Unis qui fait que seulement 65% de la consommation sont réalisés par les premiers et deuxième quartiles en termes supérieurs en termes de revenus, dont plus de 40% de la consommation par le premier quartile. Est-ce que ça rentre dans le mandat de la Fed de rééquilibrer ça? C'est pas évident. Néanmoins, ça pose quand même un problème de soutenabilité de la demande des ménages, effectivement d'un déséquilibre de l'économie américaine tiré par l'investissement et non pas par la consommation, comme ça a longtemps été le cas. Ça a des avantages, mais ça a un problème de soutenabilité. On va peut-être y venir, notamment avec tout ce qui a trait à la tech, évidemment. Il n'est pas sûr que le board du FOMC soit complètement consensuel sur le fait que c'est dans son mandat ou pas de corriger ce genre de choses.
Alors justement, dans la tech, on va avoir une nouvelle IPO avec SK Hynix qui va se lancer officiellement aujourd'hui, Nicolas.
Oui, alors le lancement de l'IPO de SK Hynix au Nasdaq, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va découvrir la fourchette de prix. Et puis le prix définitif, ce sera jeudi pour un début de cotation vendredi. SK Hynix, on le rappelle, pour celles et ceux qui nous écoutent, déjà coté à Séoul, qui a dépassé les 1000 milliards de dollars de valorisation en mai dernier, qui signe une progression de son titre de 275%, d'une progression de 275% depuis le début de l'année. On parle de la deuxième plus grosse IPO après SpaceX cette année.
Alors, c'est marrant, Wilfried, parce qu'en même temps, on a Alex Karp, qui est le patron de Palantir, et qui nous dit cette révolution de l'IA, elle est survendue, beaucoup trop chère. Il y a espèce de ras-le-bol. Il dit, je représente un certain nombre de patrons américains. On a surpayé la révolution. On ne voit pas le ROI.
Ce que Alex Karp nous dit, c'est un peu le message des marchés ces dernières semaines. C'est-à-dire, on a une oscillation qui est très très forte, beaucoup plus forte que ces derniers mois, autour par exemple de la valorisation justement des semi-conducteurs. C'était l'élément qui tirait le marché depuis le début de l'année. Effectivement, comme Nicolas l'a souligné, 275%, ça veut dire on a quand même multiplié quasiment par 4. Hein. C'est ça que ça veut dire, sur des capitalisations qui ne sont pas des capitalisations de quelques milliards. C'est absolument considérable. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un doute sur la capacité de la croissance à se maintenir, parce que ça coûte de plus en plus cher. Et le fait que, par exemple, Micron ait annoncé d'avoir locké pour les 5 prochaines années des contrats de livraison, c'est un double message. C'est à la fois dire je gère bien mon business parce que effectivement je vous donne de la visibilité sur un carnet de commandes à 5 ans. Ça veut dire aussi que si vous figez les prix au niveau où vous les avez aujourd'hui, et les commandes, ça veut dire que vous dites que finalement je vais peut-être pas encore en profiter pour augmenter les prix sur les prochains mois. Donc ça veut probablement dire que le momentum de cette industrie est en train de se normaliser. C'est une bonne chose. Et donc effectivement la question maintenant, c'est qui va être le gagnant? Qui va être le gagnant de l'IA? Qui va être le gagnant de la tech? Ça bouleverse énormément de choses. Mais maintenant effectivement, il y a eu des excès en termes de prix. Ces excès, il va falloir les absorber. Qui va en profiter en termes de ROI? Vous posez l'excellente question. Et ça, c'est la question des marchés aujourd'hui. Donc, on a une espèce de rotation entre les fournisseurs de semi-conducteurs, les fournisseurs des hyperscalers, et puis ceux qui profitent véritablement pour améliorer leur business. Et c'est probablement eux vers lesquels on va se tourner dans les prochaines semaines.
Jean-Louis, Alex Karp, il dit on a été trop loin dans l'utilisation de tokens. Alors, parfois, ça ne sert à rien, on paye cher. Qu'est-ce que vous voyez?
Aujourd'hui, le marché, effectivement, est un petit peu dans le flou parce que pour qu'on justifie dit une hausse permanente ou plutôt une fin progressive et plutôt rapide de la subvention des tokens aujourd'hui par les hyperscalers, il faut que les entreprises qui les achètent, qui les consomment, y trouvent leur compte. Donc elles réalisent ces fameux gains de productivité que les agents AI sont supposés apporter. Aujourd'hui, on en est loin. Parce que on sait que toute innovation technologique, en particulier de cette envergure, suppose d'abord des réorganisations internes aux entreprises, la remise en fond de l'organisation de leurs données, un certain nombre de réorganisations aussi structurelles qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent. Et donc, on va pas voir ces gains de productivité se matérialiser tout de suite. Et ça va forcément jouer un peu un frein, comme ça vient d'être dit, sur la capacité des hyperscalers à monter le prix des tokens. Aujourd'hui, un abonnement de 200 euros, votre abonnement personnel de 200 euros à Claude, à Anthropic, il coûte un coût de revient de 14 000 dollars Anthropic. Donc, c'est une subvention qui reste énorme. Les prix des tokens ont commencé à beaucoup augmenter, mais ils devraient augmenter beaucoup plus vite pour que ces hyperscalers y trouvent leur compte et justifient finalement les revenus qui leur permettent de financer, d'appeler le marché et de financer les investissements.
Si c'était le vrai prix, un abonnement à Claude, c'est 14 000 dollars?
Je vous donne un prix moyen qui évidemment sera très différent pour les entreprises de ce qui sera pour les particuliers demain. Mais aujourd'hui, très clairement, la stratégie des hyperscalers américains, c'est une stratégie de course à la puissance pour être le premier ou le deuxième.
Pour être partout, quoi.
Accaparer le marché dans un marché qui, par ailleurs, pénalise peu les concentrations.
Et puis après, on augmentera les prix encore plus.
Et une fois que les clients seront captifs, augmenter les prix. Voilà. On a vu ça sur des marchés équivalents, on va dire, à peu près. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est d'ailleurs une dynamique qui est très différente aux États-Unis de ce qu'elle est en Chine. Donc aujourd'hui, les hyperscalers américains, ils sont confrontés à un triple risque. Un risque de business model, à quel rythme ils peuvent échanger leur part de marché contre une hausse des prix des tokens et un taux d'utilisation en hausse de la part de la demande finale. Un risque technologique, sont-ils à risque de voir une technologie émerger qui va remettre en cause, et notamment les modèles open source chinois, leur modèle fermé. Et un risque dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, mais un risque potentiellement réglementaire. Il s'est manifesté en Chine depuis 5 ans. Il pourrait se manifester aux États-Unis de manière plus...
Réglementaire ou politique. On a vu Donald Trump s'inviter directement dans la sortie des dernières versions, notamment d'IA Anthropic. Est-ce que c'est un risque à prendre en compte, notamment pour la suite de la valorisation de ces valeurs-là?
Alors, moi, je pense que c'est un risque qui, aujourd'hui, est largement sous-estimé par le marché. Le marché n'a pas réagi il y a plusieurs mois, lorsqu'Anthropic, une première fois, avait été mise au ban par le Pentagone pour des raisons déjà... de sécurité ou plutôt de défaillance à vouloir respecter les instructions du Pentagone. Le marché a peu, voire pas du tout réagi maintenant, ensuite, lorsqu'il y a eu un ban d'exportation du dernier modèle Claude, aux clients non américains. Or, moi, ce que j'observe, je vivais à Hong Kong à l'époque où le gouvernement chinois a procédé à ce type de mesure vis-à-vis d'Alibaba il y a 4-5 ans. À l'époque, on parlait d'un marché chinois qui était devenu non investissable.
Ah oui,
bien sûr. Pas là du tout, évidemment, aux États-Unis.
Non, mais quand même, ça interpelle.
Pas du tout là, aux États-Unis, mais on est en train un petit peu de saper un petit peu beaucoup, enfin certains des éléments très importants qui faisaient la supériorité du marché américain pour un investisseur non résident.
Wilfried.
Oui, moi je suis beaucoup moins inquiet que Jean-Louis hein, là-dessus. Je pense qu'on est dans un monde de puissance et un monde de rivalité. Et à la fin, l'argument de est-ce que vous voulez qu'on gagne vis-à-vis des Chinois est un argument qui, à chaque fois, est l'argument majeur. Et donc, il y a effectivement quelques velléités de blocage pendant quelques jours, voire éventuellement 2-3 semaines, mais on voit que ça s'arrête très vite. En tout cas, ça s'arrête très vite au sein des États-Unis. Or, ce qui importe au marché sont les États-Unis.
Mais
en fait, ils s'en fichent complètement.
J'entends Wilfried des boîtes américaines utiliser des modèles chinois hein, en disant.
Il y en a de moins en. Enfin, dans les très grandes boîtes américaines.
Non, européenne. En disant, vous n'êtes pas qu'on est anthropique, on va utiliser des Chinois. Hein.
La question des modèles chinois va être une question de la souveraineté. C'est-à-dire une question, est-ce que vous êtes plus confortable avec le fait que toutes vos données partent en Chine ou est-ce que vous êtes plus confortable avec le modèle encore judiciaire américain? Sur les très grandes entreprises, je pense que la question
va être vite réglée.
Voilà, je pense que la question va être vite réglée. Ouais.
On préfère toujours aller vers les US, mais toute donnée n'est peut-être pas bonne.
Exactement.
Être secrète, il y a peut-être des données.
Il va y avoir une grande différence entre les petites entreprises qui, de toute façon, n'ont pas le choix parce que ça va devenir, comme disait Jean-Louis, beaucoup trop cher d'utiliser des modèles américains et qui vont dire, de toute façon, il faut que je sois dans la compétition, et donc tant pis pour mes données qui vont être utilisées par les Chinois, et les très grandes qui ont des modèles qui sont très forts en termes de réglementation, de conformité, de contrôle interne, qui vont dire surtout n'utilisez pas les modèles chinois. On a eu quand même des affaires où on s'est rendu compte que les données par exemple de localisation des bus qui était commandé en Chine partait directement en Chine. Mmh. Les données en France. Hein. Bon, je ne sais pas si vous avez véritablement envie que tout ça, ça se généralise au niveau de le tissu industriel français.
Il nous reste 30 secondes, Jean-Louis, mais en fait, à la fin, Alex Carpi dit c'est trop cher, mais ça va être encore plus cher, si je comprends bien.
Ah oui,
ce n'est que le début.
Le prix du token est appelé à monter.
À augmenter.
C'est certain. Si on veut rentabiliser les investissements qui ont été faits, il va être appelé à monter. La question, c'est effectivement la course entre augmenter le prix du token au risque de ralentir la demande et avoir suffisamment de revenus pour que le marché soit confiant et répondre aux appels.
Ouverture dans 6 minutes, Nicolas Pagnaise, on va surveiller Exail Technologies.
Oui, on va surveiller Exail Technologies alors que Thales a annoncé un accord avec Exail Technologies en vue d'un rachat. L'accord qui prévoit dans un premier temps l'acquisition de la participation de la famille Gorgé dans Exail, donc qui est aux alentours de 35%, puis un rachat à 100% à l'issue d'une OPA qui valoriserait Exail à 3,9 milliards d'euros. On parle d'un prix par action aux alentours de 134 euros, c'est plus 44% par rapport au dernier cours de Exail.
Wilfried Galland, Jean-Louis Nakamura, merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.